Hop. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui rapidement donc la nature du référentiel d'ordre chronologique d'Androtech dans un premier temps, la façon aussi dont il est constitué, et on va aussi parler donc de Dendrabase, qui est une base de données d'endroits archéologiques qui est au centre de notre système d'information. Donc tout d'abord, pour tenter de définir ce qu'est un référentiel d'ordre chronologique, on peut dire qu'il s'agit d'une collection de séries temporelles qui représentent des successions de largeurs de cerne qui proviennent de bois d'une même essence forestière. Ces séries temporelles sont synchronisées les unes avec les autres pour former une chronologie absolue de résolution annuelle, un cerne équivalent à une année, en tout cas sous nos latitudes, pour la plupart des essences étudiées. Théoriquement, un tel référentiel est constitué en partant d'arbres vivants, puis en remontant progressivement le temps, en prospectant des sites qui contiennent des bois toujours plus anciens. Ce principe a surtout concerné en fait les premiers référentiels, mais il peut encore être appliqué dans des programmes d'étalonnage qui visent à mieux couvrir une période ou une région donnée. Alors, en ce qui concerne Dendrotech, le référentiel qu'on utilise pour la datation est constitué de deux sources principales. En premier lieu, Dendrotech a bénéficié, dans le cadre d'un contrat de coopération scientifique avec le CNRS et l'Université de Rennes, Dendrotech a donc bénéficié des référentiels qui étaient déjà utilisé par Vincent Bernard et Yannick Le Digol au laboratoire archéosciences de l'UMR 65-66. Puis, au cours du temps, Dendrotech, grâce à son activité de prestation, a pu générer son propre référentiel qui reste toujours en perpétuelle évolution. Il est constitué donc par l'ajout progressif de nouvelles références qui sont produites au gré des études, études dont le but n'est pas la création du référentiel en premier lieu, mais c'est avant tout d'appréhender des phases d'abattage et des phases de construction sur les sites étudiés. Donc, pour chacune de ces études, des exigences minimales sont observées à chaque étape de l'analyse afin de garantir à la fois la précision, mais aussi la qualité des datations, et donc aussi la qualité des références produites a posteriori. Sur le terrain, en amont des prélèvements, la première étape passe par l'observation archéologique des structures en bois. Elle permet de déterminer à la fois soit l'homogénéité, soit l'hétérogénéité de ces structures, et de préparer une stratégie de prélèvement qui est bien adaptée aux problématiques envisagées sur le site. Dans ce cadre, ah, pardon. Excusez-moi. Dans ce cadre, un nombre minimal de pièces de bois est prélevé par phase de construction, une douzaine de pièces en règle générale, afin d'assurer une représentativité suffisante d'arbres distincts pour une même période de croissance. En laboratoire, plusieurs mesures sont effectuées par pièces de bois pour obtenir ce que l'on appelle des séries élémentaires. Ces séries permettent d'une part de vérifier l'absence d'erreurs de mesure, mais elles sont aussi rassemblées au sein d'une série individuelle qui synthétise la croissance de l'arbre correspondant. Ensuite, l'ensemble des séries mesurées pour les pièces des bois d'un même site sont comparées les unes avec les autres dans le but de constituer des groupes d'arbres contemporains. Après validation de ces groupes, validation statistique et visuelle, une ou plusieurs moyennes sont calculées pour se rapprocher au mieux d'un signal commun qui sera plus signifiant du point de vue climatique. Vient ensuite la datation en elle-même, au cours de laquelle les séries moyennes sont confrontées avec le référentiel. Et pour chaque série testée, une proposition de datation peut alors être retenue et elle va être qualifiée en fonction de ses qualités à la fois statistiques et visuelles. Ainsi, on peut considérer une proposition de datation comme étant acquise si la datation semble être définitivement bonne. Elle peut être aussi considérée comme provisoire s'il s'agit d'une hypothèse de datation à confirmer ultérieurement. Et dans de plus rares cas, la datation peut être définie comme étant à risque si le choix de la proposition de datation a été fortement guidé par d'autres éléments archéologiques ou historiques. Donc, chacune des séries datées au cours de ce processus rejoint alors le référentiel. Et en ce qui concerne les sens de chaîne, le référentiel produit par Dendrothèque est constitué pour le moment de 1304 séries de référence, dont 1064 présentent une datation qui peut être considérée comme définitivement acquise. Donc, malgré un nombre de séries relativement confortable pour la datation, on peut tout de même constater des disparités au sein de ce référentiel. Donc, tout d'abord, comme on l'a déjà évoqué et comme on le voit ici, au niveau de la fiabilité de la datation elle-même, mais aussi au niveau du poids de chaque référence, chaque série pouvant ne représenter qu'un seul arbre, plusieurs dizaines, voire même, dans certains cas, plusieurs centaines d'arbres différents. Dans le même ordre d'idée, la variété des profils de croissance au sein d'une série moyenne peut être plus ou moins accentuée et avoir donc un impact sur sa représentativité en termes climatiques et donc en termes chronométriques. D'autre part, la couverture chronologique du référentiel est très inégale, comme on peut le voir ici pour les références de chaînes dont la datation est acquise, alors que pour la plupart des périodes, on constate donc un nombre de références par année assez faible. La période qui va du début du XIVe au XVIIIe siècle présente un nombre de références bien largement supérieur. La majeure partie de ces références est située dans le nord-ouest de la France, car c'est là donc qu'une grande partie de l'activité de Dendrothèque se trouve depuis un peu plus de 14 ans maintenant. Et on peut constater quand même de fortes disparités spatiales, et ce, même pour la région Bretagne, dans laquelle se situe le siège de Dendrothèque. Quand on observe l'évolution de cette répartition spatiale au cours du temps, on s'aperçoit encore mieux les discontinuités spatio-temporelles au sein du référentiel, ici pour une période qui va du 9e siècle à nos jours. Donc, cet aspect lacunaire du référentiel dendrochronologique est dû à plusieurs facteurs inhérents à sa constitution et dont certains s'avèrent difficilement surmontables, parmi lesquels on peut citer par exemple, d'une part, l'absence de planification dans sa construction, qui est liée à la nature même de l'activité de prestation de Dendrothèque, mais aussi la mauvaise conservation et la rareté du bois sur les sites antérieurs au XIIIe siècle, et enfin, la faiblesse des demandes d'analyse sur des structures postérieures au XVIIIe siècle. Donc, toutefois, cette non-exhaustivité n'empêche que rarement la datation, sauf pour des périodes où le manque de références est généralisé sur tout le territoire, ou encore pour des périodes où l'environnement boisé témoigne de particularités qui compliquent vraiment l'extraction d'un signal commun, d'un signal climatique commun. En plus des séries de largeur de cerne et donc du référentiel dendrochronologique qui en découle, le processus d'analyse que l'on a évoqué génère des données très variées, qu'elles soient archéologiques, biologiques ou chronométriques, et c'est pour réunir, structurer et mettre en œuvre toutes ces données qu'une base d'endroits archéologiques a été développée au sein de Dendrothèque depuis 2007. Donc Dendrabase, c'est avant tout une base de données relationnelle dont la structure est relativement simple, la voici, mais qui elle a été pensée pour s'adapter à des sites de nature variée, aussi bien des fouilles archéologiques que des études de bâtis, de mobilier ou encore d'arbres sur pied. Donc, dans cette structure relationnelle, la plus petite unité d'enregistrement est aussi celle qui est la plus centrale, c'est le bois, qui peut tout aussi bien désigner un artefact qu'un arbre encore sur pied. C'est là que sont stockées les données archéologiques et dendrologiques de chaque bois analysé, et cela s'accompagne bien entendu d'une série individuelle obtenue à partir des échantillons correspondants. Un bois est naturellement associé à l'intervention au cours de laquelle il a été échantillonné et au site dont il provient. Les bois d'un même site peuvent être associés au sein d'une ou plusieurs chronologies, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, de séries moyennes qui sont amenées à devenir des références locales. Mais la structure relationnelle de Dendrabase permet aussi de calculer et de maintenir des chronologies pour d'autres échelles géographiques, telles que des régions administratives ou des aires d'études autour de grands centres urbains ou de zones rurales qui ont fait l'objet de programmes de recherche assez soutenus. Une chronologie peut aussi être issue de l'importation de données externes à Dendrothèque. Enfin, le produit de l'ensemble des informations recueillies est concrétisé dans l'enregistrement de faits dendro-archéologiques qui permettront d'associer les interprétations archéologiques aux dates d'abattage pour fixer finalement l'interprétation du rôle des bois et de leur datation dans le site. Cette structure relationnelle s'accompagne de scripts d'automatisation qui offrent des outils assez nombreux d'acquisition de largeur de cerne, d'aide à l'analyse, mais aussi de publication des résultats via bien sûr les rapports d'études et via le site internet sur lequel la base de données propose une version synthétique des résultats. Il facilite aussi la gestion du référentiel, notamment pour un logiciel de calcul qui est très utilisé par les dendrochronologues francophones et qui s'appelle Dendron4. Donc, à l'heure actuelle, Dendrabase gère les données de 759 sites différents qui ont fourni plus de 18 000 enregistrements de bois, chacun associé à une série individuelle, qu'elle soit datée ou non. On peut considérer qu'au sein de Dendrabase, la définition du référentiel dendrochronologique est étendue à l'ensemble des informations contextuelles pour former une sorte de référentiel dendro-archéologique. Cette masse de données structurée permet alors d'envisager des problématiques qui vont au-delà de la seule datation et qui portent sur des échelles d'analyse variées. Ainsi, l'étude de la gestion du bois d'œuvre a pu être réalisée sur certains sites en prenant en compte les essences exploitées, les débitages utilisés ou encore la saisonnalité des abattages. De plus, l'analyse typologique des profils de croissance a permis d'appréhender les types d'arbres exploités pour ces mêmes sites et de tenter même la modélisation de systèmes boisés. Enfin, l'analyse de l'évolution de certaines caractéristiques dendrologiques telles que la croissance moyenne a permis de considérer l'évolution des populations forestières sur le temps long et pour un vaste territoire. Cependant, il faut rappeler que pour aborder ces différentes problématiques, il faut bien tenir compte de la façon dont les données sont réunies pour éviter au maximum les effets de source et d'éventuels biais d'interprétation. Et si cela est plus facilement contrôlable en amont de l'étude d'un site particulier, c'est l'exercice est beaucoup plus délicat et contraignant en ce qui concerne l'analyse de données de nombreux sites dont les échantillonnages n'ont été planifiés que pour la seule datation. Pour conclure, de nombreux défis sont encore à relever en dendrochronologie, dont l'un des plus essentiels, à mon sens, est celui du partage des données. Mais l'échange des données est de toute façon un sujet sensible quand leur mise en œuvre nécessite une expertise scientifique poussée. Mais c'est particulièrement le cas en dendrochronologie, qui est une discipline assez fragile, dans un contexte concurrentiel qui est bien présent. Sans pouvoir apporter donc une solution définitive au cloisonnement des données, la mise en place d'un référentiel commun à tous les laboratoires, basé sur les références déjà publiées, pourrait éventuellement offrir une base pérenne dont l'interrogation fournirait alors des résultats indépendants, normés et hautement reproductibles. Merci de votre attention.